Alors maintenant, je ne sais pas si Annie ou Danica peut-être veulent partager avec
Peux y
nous.
aller.
Oui.
Je peux y aller. Donc, merci. Donc, ce que je vais dire va se rattacher un peu de ce que Diane et Marcel ont dit. Donc, ce que j'ai présenté précédemment, c'était le rôle de concertation qu'a joué la self au fil de son histoire. Et c'est exactement ça, ce fil rassembleur-là, qui, à mon avis, est probablement sa contribution la plus importante au développement de l'éducation au Canada. Donc, mais à cette composante-là, je vais ajouter, pour ne pas m'étendre aussi sur le sujet que j'ai abordé précédemment, sa contribution à la sensibilisation des différentes communautés éparpillées à la grandeur du pays aux réalités vécues ailleurs. Donc, que ce soit en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, au Québec, les réalités sont très différentes, mais ils ont aussi un vécu commun. Donc, la self, comme vous avez dit précédemment, c'est ça, c'est ce fil rassembleur-là. On a un vécu commun, même si on vit en situation très différente, en réalité différente. Donc, je vais vous aborder quelques initiatives pour venir compléter un peu ce qui a été dit. Donc, au tournant des années 90, la self, croyait nécessaire justement de questionner un peu son idéologie, ses buts et sa perception de la francophonie, donc qui est de plus en plus marquée par le pluralisme culturel et identitaire qui va caractériser la société canadienne. Quelques-unes de ces initiatives à ce moment visent donc de sensibiliser les francophones et de développer un sentiment, le sens d'appartenance à une francophonie nationale, même malgré les différences. Donc, si on prend par exemple son programme d'échange d'élèves francophones qui a été mis sur pied en 1989, donc la self va créer quelques programmes pour nouer des liens entre les francophones du Québec à ceux qui habitent en situation minoritaire. Donc, avec la collaboration financière du ministère de l'Éducation du Québec et du secrétariat d'État du Canada, le programme de voyage-échange va s'adresser aux élèves francophones de la fin du primaire et du début du secondaire. Puis les classes vont être jumelées entre celles du Québec et celles des provinces. Puis c'est pour favoriser la consolidation de liens de solidarité dans la francophonie canadienne, ainsi qu'une compréhension mutuelle des réalités vécues en milieu majoritaire et minoritaire. Donc ensuite, ça c'est une de ces multiples initiatives. Ensuite, elle a mis sur pied des stages de perfectionnement, je pense que Diane a mentionné plus tôt, à l'été 1990. Donc, pour ces stages-là, la Ville de Québec accueille à chaque été, pour une durée de 2 semaines, des enseignants de l'élémentaire, du secondaire, des directions d'école et des intervenants en alphabétisation qui souhaitent un ressourcement éducatif et culturel en langue française. Les stages vont permettre un échange de connaissances, d'innovations pédagogiques et d'expériences culturelles entre les animateurs et les stagiaires. Le contenu, c'est le fruit d'une équipe de pédagogues avec la collaboration des représentants des ministères d'éducation, des directions d'école et des conseillers scolaires dans les différentes provinces et territoires. Donc, ces stages ont accentué le rôle spécifique que la self attribue à l'éducation dans la construction de la francophonie canadienne comme société globale et ça au-delà des appartenances provinciales. Les stages en enseignement dans la francophonie canadienne, c'est un autre de ces initiatives qui a été mis sur pied au début des années 2000, donc en 2001, et vont aussi s'inscrire dans ce sens. Donc, en réponse à une pénurie d'enseignants francophones, la self et l'Université Laval vont collaborer à la mise sur pied d'un programme innovateur de stages en enseignement dans les communautés francophones en milieu minoritaire. Donc, les étudiants qui fréquentent les facultés d'éducation québécoises ont l'occasion d'aller compléter le stage de formation pratique dans les écoles de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Yukon. Donc, ces stages-là sont d'une durée de 6 à 9 semaines et ont commencé justement au Manitoba en 2001. Cette initiative-là va permettre aux étudiants québécois de recevoir une formation théorique dans un milieu francophone majoritaire, mais d'avoir leur formation pratique dans un contexte minoritaire. Donc, ça va leur permettre de prendre conscience des particularités et des défis de l'éducation en français dans les diverses communautés à travers le pays. Donc, enfin, comme vous l'avez mentionné, à la fin des années 90, la SELF va s'engager dans la production de matériel pédagogique et d'outils favorables à la construction identitaire. Pour ne nommer que quelques initiatives, donc on peut mentionner la Banque d'activités pédagogiques qui a été mise sur pied en 1998, qui est une ressource informatique incontournable, qui va rassembler des activités informatiques pour la petite enfance, les élèves du primaire et du secondaire, ainsi que les apprenants en alphabétisation. Ensuite, en 2004, en collaboration avec le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques et avec l'appui du ministère du patrimoine canadien, la CEL va publier un manuel d'histoire intitulé « Voyage en francophonie canadienne ». Donc, ce livre-là va relater les 400 ans de présence francophone et les multiples visages que révèle la francophonie canadienne. Donc, ce sont des initiatives qui amènent les jeunes, les enseignants, les parents, les directions d'école et tout autre intervenant dans le monde scolaire à prendre conscience des enjeux de l'éducation française en milieu majoritaire et minoritaire et qui va les inviter à développer un sens d'appartenance à une francophonie qui est non seulement nationale et même internationale. Donc, c'est ce rôle de sensibilisation-là que la CELF, qui rejoint en partie aussi son rôle de concertation et d'une association rassembleur, qui, à mon avis, est une de ses contributions les plus importantes de son histoire.
Merci beaucoup, Danica. C'est vraiment impressionnant, ces multiples contributions, initiatives au fil du temps. Vraiment intéressant. Donc, maintenant, je donnerai la parole à Annie et ensuite, on pourra ouvrir la période de questions.
Merci, Nathalie. C'est extrêmement embarrassant de parler après Danica. Elle a fait un travail extraordinaire. Je l'aurais écouté toute la soirée nous raconter l'histoire de l'évolution de la CELF à travers toutes ses multiples contributions. C'est vraiment un travail incroyable là, qui a été fait pour nous et j'aurais bien aimé pouvoir voir l'exposition là, qu'elle va nous présenter tout à l'heure. Donc, ma réponse, surtout que je parle en dernier, va être donc d'une grande évidence et évidemment, ça peut peut-être vous apparaître comme une grande banalité, mais je dirais que la plus grande contribution de la CELF aurait été de garder le projecteur sur l'évolution des enjeux relatifs à la langue française en éducation à travers le temps. Hein, on l'a bien dit, 75 ans, c'est long. Il y a eu différents événements qui ont marqué cette période-là, comme nous l'a bien rappelé Danica. C'est pas en descendant dans la rue que la CELF a défendu le français pendant toutes ces années. C'est au contraire à travers une force tranquille et positive, à travers ce que tous les autres avant moi ont mis en évidence, à travers une action concertée qui a su mettre en valeur la richesse des contributions et aussi la fierté d'affirmer la langue française telle qu'elle s'exprime à travers une diversité de cultures et d'espaces géographiques. Alors, la CELF a vraiment réussi à faire ce virage-là, je pense, pour que tous les francophones se sentent inclus et qui se retrouvent là à travers son action. Si j'insiste là-dessus, puis que je dis, bon, ça semble peut-être banal, c'est que de nos jours, on parle beaucoup des enjeux d'EDI, hein, équité, diversité et inclusion dans nos établissements d'enseignement. C'est un enjeu extrêmement important. On a parfois l'impression que le français est oublié. Et le grand oublié à travers ces enjeux-là. Pourtant, c'est au cœur aussi de ces préoccupations. Et donc, des associations comme la CELF ont le rôle aussi de nous rappeler qu'on ne doit jamais tenir pour acquis toutes ces avancées qui ont été faites au niveau de l'éducation de langue française au Canada et à tous les ordres d'enseignement. Alors, je pense qu'il est plus important que jamais là, de continuellement rappeler les conditions inégales auxquelles sont confrontés les francophones lors de leur parcours scolaire, au fil du développement de leur carrière professionnelle en français. Alors, il me semble que la CELF s'inscrit comme d'autres associations qui ont, ces récentes années-là, attiré l'attention de manière renouvelée sur ces enjeux-là. Et je noterai au passage le rapport de l'ACFAS, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec ce rapport récent, qui a porté sur les conditions de la recherche de langue française en situation minoritaire, qui démontre bien, finalement, comment ces défis restent encore à surmonter à travers l'ensemble du système d'éducation au Canada. Alors, longue vie à la CELF parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
Merci Annie, donc c'est très très intéressant justement ce rôle-là de la CELF qui garde le fort en fait, hein, qui continue à mettre de l'avant des priorités importantes tout en embrassant de nouveaux enjeux fort importants qu'elle documente aussi de multiples façons, tant au niveau pratique que scientifique avec les ressources qu'elle produit. Donc maintenant, il me fait vraiment plaisir d'ouvrir les questions à la salle. C'est le moment ou jamais de poser des questions à nos participants. Donc, vous pouvez soit lever la main avec le petit icône que vous pouvez activer tout au bas du menu, et ou la poser dans la barre de commentaires, de dialogue, et je pourrai peut-être à ce moment-là poser la question pour vous, mais vous êtes invité aussi à lever la main et poser votre question de vive voix. Oui, voilà, je vois Anne. Vas-y, Anne Gilbert.
Bonjour. Vous avez beaucoup insisté sur la concertation qui s'est faite à la SELF, sur la SELF comme un lieu de rencontre des francophonies québécoises, acadiennes, canadiennes. Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'histoire, ma question s'adresse peut-être plus à Danica, qui connaît mieux l'histoire peut-être de l'organisme, mais aux autres aussi, est-ce qu'il y a eu des moments dans l'histoire où ce ralliement-là a été difficile, où la concertation a été plus fragile, où il y avait des tensions entre les francophonies des différentes régions? Ça nous permettrait de voir, de s'interroger aussi sur les façons de réussir à rallier les gens malgré les défis.
Merci Anne pour cette question. Donc peut-être que j'inviterai Danica à y répondre, mais aussi tous les autres si vous avez des éléments à ajouter.
Oui, donc merci Anne pour ta question. Donc, c'est évidemment quelque chose que j'ai repéré dans les archives. Donc, dans les années 70, surtout à l'aube du référendum québécois, où est-ce qu'on s'interroge un peu la place du Québec au Canada, il y a des tensions à l'intérieur de l'association. Donc, à ces congrès, on peut remarquer l'ACFA, justement, l'Association canadienne française de l'Alberta, qui va émettre un commentaire qu'on n'adopte pas la position que cet organisme québécois-là va adopter. Donc, les franco-albertains vont à ce moment-là un peu se mettre sur leur garde. Et ça, c'est surtout parce que si on se dit à l'intérieur de l'association, en situation minoritaire, si le Québec n'est plus dans le Canada, qu'est-ce que nous on fait? Donc, les francophonies ont besoin du Québec, non seulement du côté culturel, parce que les programmes pédagogiques dans les provinces ne sont pas aussi avancés que ce qu'ils sont au Québec. Donc ça, c'est juste une des raisons qu'on voudrait préserver un peu l'unité, c'est qu'on a besoin du Québec. Mais les tensions sont très évidentes. Et puis, éventuellement, on reconnaît justement le fait que le Québec doit demeurer dans le pays et qu'on reconnaît son importance dans l'éducation française au Canada, on voit un peu les tensions se diminuer au fil des années, mais c'est très évident dans les années 70 qu'il y a un gros schisme à l'intérieur de l'association.
Est-ce que d'autres voudraient ajouter? Oui, Monsieur Larocque.
Oui, si je pouvais rajouter, j'étais pas là dans les années 60-70.
Monsieur oui. Lacombe, ensuite, pardon.
Enfin.
Allez-y.
J'étais pas dans les années 60-70, j'ai vu ça aussi, puis je peux me douter avec l'époque politique du temps et tout ça. Mm-hmm. Mais ce que je peux dire, moi je suis à la SELF depuis 2006, ça fait quand même une quinzaine d'années. Et la SELF est vraiment pan-canadien, plusieurs raisons qui font qu'on s'implique et qu'on demeure avec la SELF. En longévité, il y a 4 régions hein, pour nous à la SELF, qui est l'ouest des territoires, l'Ontario, le Québec et l'Atlantique. Distribution égale des participants, des gens qui viennent un peu partout, des ministères, au conseil d'administration. Et si on décortique notre sigle, canadienne, éducation de langue française. Et c'est vraiment ce qui domine dans toutes nos actions. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut recevoir de tout le monde qui a ces 4 lettres-là de notre acronyme? Fait que c'est vraiment bien de voir ça. C'était probablement un mal nécessaire pour mieux définir qui nous sommes et qui nous serons. Espérons que ça va se poursuivre.
Merci,
oui. Je vais ajouter juste quelque chose à ça en parlant de son conseil d'administration. Justement, il y a eu une restructuration de son conseil d'administration des années 60. Puis c'est ça aussi qui a apporté certaines tensions parce que le Québec avait plus de sièges. Donc, dans d'autres parties du pays, on se demandait bien, pourquoi est-ce que le Québec a plus de sièges. Je pense que c'est l'Ouest, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'on avait deux sièges, puis le Québec en avait 4-5. Donc, il y avait cette proportion-là aussi qui a été mise à l'évidence dans les sources, parce que j'ai pu voir qui aurait causé des tensions à l'intérieur de l'association.
Ah, oh, très bien. Donc, au niveau de sa gouvernance, des ajustements, des évolutions. Maintenant, j'aimerais donner à ce sujet-là la parole aussi à Richard Lacombe.
Merci, merci beaucoup. D'abord, merci aux quatre panélistes. C'était très intéressant de vous écouter. J'aurais deux questions. Une première, peut-être plus à Danica, puis ensuite aux chercheurs. Ça a été mentionné plus tôt que dans l'histoire de la SELT, il y a des parts d'ombre. Puis c'est pas nécessairement des squelettes placés dans le décor, c'est qu'il n'y a pas eu de recherche tellement qui a été faite. La question de Danica, si vous avez remarqué, dans la première intervention de Danica, il y avait beaucoup d'interventions politiques que la SELF avait faites. Et pour ceux qui connaissent la SELF aujourd'hui, peut-être qu'ils se sont demandé, ah oui, on a fait ça nous autres, parce que maintenant on est très apolitique et on ne touche plus à tous ces aspects-là. Alors, je ne sais pas si Danica peut nous expliquer comment on est passé à beaucoup d'actions politiques à ne plus en faire. Et peut-être c'est une zone d'ombre, peut-être. Et la deuxième, c'est comme chercheur, l'histoire de la SELF est fort intéressante. On en a des fragments aujourd'hui. Comment qu'on peut, maintenant que les archives sont disponibles pour la recherche, c'est un gros travail, mais merci au centre d'avoir tout fait ça. Comment on peut susciter l'intérêt pour des chercheurs de continuer à creuser des aspects de la SELF et pas juste la SELF pour elle-même, mais pour sa contribution puis pour en lien avec l'avancée. Je remercie la personne qui a parlé du 50e de la revue, c'est Annie, parce qu'effectivement, c'est une autre grande réalisation et on va sortir un numéro spécial du 50e de la revue qui va sortir à l'automne prochain. Alors, j'ai une question, double question, une pour Danica, puis une comme chercheur. Merci.
Merci Richard pour la question. Oui, justement, en termes de côté politique, et je pense que je l'avais mentionné dans ma première intervention, le besoin d'avoir un organisme politique s'est fait sentir dans les années 70. Puis c'est là qu'on a cru le besoin d'avoir cet organisme-là. C'est là que est créée la Fédération des francophones hors Québec qui va agir plus politique que ce que la SELF va agir par la suite. Donc oui, elle va soutenir des interventions, des causes judiciaires, mais en termes de poids politique, je crois que c'est un tournant dans les années 70 où est-ce qu'elle va se concentrer plutôt sur son rôle de concertation et va laisser un peu la partie politique à la FFHQ. Donc c'est ce que j'ai remarqué. C'est certain, comme je dis, qu'à certains moments de son histoire, peut-être qu'elle va soutenir certaines causes politiques, mais c'est vraiment ce tournant-là que moi, personnellement, j'ai identifié.
Est-ce que quelqu'un voudrait répondre maintenant au deuxième volet de la question qui porte davantage sur comment susciter des carrières de jeunes chercheurs entourant le fonds d'archives de la SELF, les différents pans dans l'évolution de l'association?
Je peux y répondre.
Oui, avec joie.
Dans le fond, ce que j'ai remarqué en dépouillant un peu le fond, c'est, comme je l'ai mentionné, c'est son ampleur. Donc, le fond est très riche en documents. Donc, il fait vraiment état des liens de la francophonie canadienne, ce qui est très intéressant. Mais on a tendance, en histoire surtout, on a tendance à étudier un peu les différentes minorités en vase clos. Donc, mettons les Acadiens, les Franco-Ontariens. Et je crois qu'en tant que chercheur, le fond de la SELF est très riche pour mettre tout ce beau monde ensemble, si on pourrait dire, et un peu décloisonner un peu l'étude qu'on fait de la francophonie canadienne. Donc, pour les chercheurs qui vont s'intéresser à l'éducation, c'est peut-être de mettre en évidence justement la richesse du fond.
Bon élément de réponse. Je peux peut-être ajouter, parce que souvent les gens pensent, quand on parle d'un fond, que c'est uniquement destiné aux historiens et aux historiennes. Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi un petit peu de travail à faire, peut-être au niveau des institutions, soit les universités, les collèges, de passer le message qu'il y a beaucoup de disciplines qui peuvent s'abreuver de ce fonds-là, que ce soit en sociologie, que ce soit en sciences politiques, que ce soit, je ne sais pas, en études canadiennes, pas de remanier le fonds, mais de chercher à partir de ses propres, de sa propre spécialisation, ce qui peut être, important de souligner, pas nécessairement d'en faire nécessairement l'objet principal, mais certainement, il y a la plupart des recherches, en tout cas en sociologie, en recherche qualitative, demande une analyse documentaire préalable ou accessoire au reste de la recherche. Donc, il y aurait beaucoup de possibilités, même au niveau des cours dans les universités avec les étudiants, les étudiantes, leur faire découvrir ces domaines-là. Mais à ce moment-là, peut-être que, je ne sais pas jusqu'à quel point ça pourrait se faire, mais que la SELF, peut-être, Charles, essaie de publiciser ce côté-là, peut-être. Mais moi, je le verrais très bien dans plusieurs disciplines. Là.
Suggestion très intéressante, Diane. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose suite à la question de Richard Lacombe. Sinon, nous avons une question aussi que je viens de lire dans la part de conversation de Adou Jean-Constant Atta. Est-ce que vous voulez la poser de vive voix ou je peux aussi la lire, c'est comme vous souhaitez.
Et je peux la reposer, pas de problème.
Oui, avec joie.
Merci. Ma question est relative. Déjà, je voudrais remercier les panélistes pour ces informations très intéressantes. Et ma question est en lien avec les ressources dont a parlé M. Larocque. Alors, je voudrais savoir, parce que en situation de classe, il y a pas mal de ressources qui sont par moment adaptées et même des plateformes qui sont utilisées pour l'enseignement-apprentissage et qui sont fortement connotées par la langue anglaise. Alors, est-ce que la SELF a peut-être une initiative de recherche dans ce sens en vue de faciliter l'usage de ces plateformes ou même penser à l'usage de certaines plateformes francophones pour faciliter l'enseignement-apprentissage en situation éducative francophone? Merci.
Oui, M. Larocque, merci beaucoup pour la question et je vous passe la parole, M. Larocque.
Oui, merci. Oui, la SELF est très sensible à ce type de situation qui peuvent arriver. Ce soir, mon Zoom me parle en anglais. Parfois, c'est la plateforme sur laquelle on n'a pas de contrôle. Parfois, il est français, parfois, il est anglais. C'est des choses qui arrivent. Mais par contre, monsieur, ce que je vous invite à faire, c'est de nous mentionner spécifiquement où est-ce, quelles sont les plateformes. Vous pouvez simplement nous écrire au niveau de la SELF et c'est le genre de situation qu'on s'occupe habituellement. Et si on peut trouver quelque chose en français, ça va certainement être priorisé.
Merci. C'est vrai qu'en temps de pandémie, c'est une question fort importante. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
J'aimerais peut-être, Nathalie, si tu le permets, réagir à la question de M. Atta. Je trouve que ça met bien en évidence ce que je disais lors du premier tour sur les inégalités. Un très bon exemple de cela. Alors là, on est dans une situation de pandémie qui a mis les projecteurs sur de nouveaux enjeux en éducation. Alors, clairement, les écoles de langue française n'ont pas accès à autant de ressources que les écoles de langue anglaise qui ont, au bout d'un clic, toutes sortes de ressources en ligne qui ont été créées pour la planète au complet, alors que là, les enseignants doivent innover, trouver des solutions avec des environnements qui ne sont pas toujours bien adaptés. Donc, on voit bien comment, peu importe les nouveaux enjeux auxquels on est confronté, il y a encore des nouvelles marques d'inégalité qui viennent montrer que ce n'est pas toujours facile de faire en français, mais que ça vaut bien le coup.
Merci, merci. Donc, on a le temps pour une dernière question avant de passer au lancement tant attendu de l'exposition en l'honneur des 75 ans de la SELF. Oui, oui, Agathe, Pascaline, allez-y. Et ensuite, si on a le temps, peut-être Hélène Boulay aussi.
Bonjour tout le monde et bonjour aux panélistes. J'ai une question. Je voudrais d'abord aussi dire merci à chacun des panélistes qui a intervenu ce soir. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer, même si c'est virtuel, Madame Gérin Lajoie, que j'ai plusieurs fois citée dans mes travaux. Donc, c'est un véritable privilège. En fait, ma question, c'est en ce qui concerne la présence de la multiculturalité dans les écoles. Je crois que ça a été mentionné justement par Madame Digérin Lajoie. On sait qu'avec la présence de l'immigration massive, les écoles sont davantage plurilingues, les élèves sont plurilingues. En fait, je voulais savoir, est-ce que la SELF a déjà développé des ressources qui faciliteraient la construction identitaire francophone pour ce type d'élèves-là, des élèves qui parlent plusieurs langues? Merci.
Merci pour la question. Est-ce que Diane, peut-être, tu réponds?
Oui, je peux peut-être répondre, mais comme je ne travaille pas là, à la SELF, je ne veux pas trop m'avancer. Mais si vous allez sur le site de la SELF, si vous regardez les ressources, si vous regardez les outils pédagogiques, c'est incroyable le nombre de d'activités. En fait, c'est plus les activités pédagogiques. Le nombre d'activités pédagogiques qui touchent la question de la diversité linguistique et la diversité culturelle. Donc, je pense qu'il y a moyen d'aller juste de passer au travers des activités parce que ça touche différents niveaux, différents au secondaire, au primaire. Et c'est très bien fait. Les activités sont très bien faites, très bien développées sur le plan pédagogique. Alors, je pense que si vous allez jeter un coup d'œil à ce qui se fait, vous allez sûrement trouver là, quelque chose qui va vous aller là, dans ce que vous cherchez. Mais peut-être que M. Larocque est peut-être plus en mesure de répondre. En tout cas, moi, c'est la réponse que je peux donner. Là.
Si je peux me permettre, oui, je n'ai pas les détails non plus de chacune des activités, mais n'oublions pas que la SELF n'est pas en canadienne. Donc, nos enseignants, nos enseignantes partout dans les écoles françaises font affaire avec une clientèle très diversifiée. Et nous ne sommes pas tous de l'Acadie où ma langue première est le français. Beaucoup viennent de d'autres cultures. Et oui, c'est facile de trouver des activités. Il y en a plein. La Trousse du passeur culturel, entre autres, donne des éléments. Nous, on travaille pour la francophonie, on travaille en français, mais c'est très adaptable à beaucoup d'activités. Puis je suis sûr qu'en fouillant sur notre site, vous allez trouver, madame, des choses super intéressantes et adaptées à vos besoins.
Merci. Alors, on a peut-être le temps pour une petite dernière question. Je sais qu'Hélène avait une question.
Oui, en fait, j'avais ouvert puis fermé mon micro, baissé ma main parce que M. Lacombe avait un peu déjà adressé la question que j'avais, mais je pensais peut-être en fermeture, si je pouvais aller un peu plus loin, très, très rapidement, on a mentionné le passage du assez politique de la SELF à une vocation beaucoup plus pédagogique, puis j'étais juste curieuse de savoir si, selon vous, peut-être selon Marcel Larocque, mais aussi selon les autres panélistes, si vous pensez, est-ce qu'il y aurait une situation politique moderne dans laquelle la SELF s'impliquerait et quelle serait cette situation politique?
Bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer?
Ma première réponse serait vraiment pas. Je n'ai pas vu dans les 15 dernières années où nous avons fait pression politique. On essaie plutôt de trouver des solutions, travailler en équipe, travailler en collaboration. Nous, on ne milite pas. Il n'y a aucune entrevue qui va être faite, même si parfois les journalistes aimeraient nous amener sur un terrain glissant, la langue, la culture, blablabla. On se tient loin de ça. Ce n'est pas à cet endroit-là que l'on concentre nos énergies. C'est vraiment sur la création d'outils, sur le réseau pour Canadiens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour développer l'éducation de langue française partout au pays.
Merci. Voilà. Alors, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a quelques commentaires fort intéressants dans la boîte de commentaires, donc je vous invite à les lire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe maintenant la parole à Danica qui pourra procéder au lancement de l'exposition.
Merci Nathalie. Je souhaite un bonsoir à tous qui ont décidé d'assister à ce lancement. Donc, je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer l'exposition virtuelle que j'ai réussi à mettre ensemble. Un instant. C'est ça, ici. Donc, je vais vous partager le lien par la suite dans la barre de commentaires. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui? OK. Parfait. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre présence ce soir. Il aurait été bien de pouvoir le tenir en présentiel. L'exposition est déjà tout montée dans l'aire d'exposition du CRCCF. Mais heureusement que nous avons cette plateforme pour pouvoir procéder. Donc, en espérant que vous allez apprécier son contenu. Donc, je tiens à remercier Luciotte et Michel Bock pour m'avoir offert l'opportunité de faire la conception de cette exposition. Je remercie également la CELJ pour sa collaboration pour mener à bien ce projet, ainsi que le secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour le financement qui a permis sa concrétisation. Et enfin, à toute l'équipe du CRCCF, je vous remercie pour votre patience et votre aide précieuse tout au long de ce processus. Qui a été quand même au-dessus d'une année, donc je vous remercie. Donc, la création de cette exposition, intitulée La CELJ, 75 ans à la promotion de l'éducation en français, de 1947 à 2022, m'aura d'ailleurs permis de dépouiller le fonds d'archives de la CELJ plus que je l'avais fait précédemment dans le cadre de mes recherches doctorales. J'ai tenté de traiter de manière aussi exhaustive que possible les différentes orientations de l'association au fil des ans. Or, je précise que les limites temporelles du fonds d'archives, soit de 1947 à 2012, ont fait en sorte que les premières décennies de son existence sont très bien documentées et le virage au numérique dans la dernière décennie aura affecté ce qu'on retrouve dans les archives. Donc, pour mettre en lumière les contributions de la CELJ, j'ai tenté de choisir des documents à exposer qui illustrent bien ces différentes orientations, ses initiatives, ses positions sur certains enjeux historiques de l'éducation. Donc, vu la richesse de ce fonds d'archives, il a été très difficile de faire le choix des documents. Donc, vous pouvez demander à Alice au CRCCF, qui a été très patiente à attendre ma sélection finale. Donc, ses projets, ses procès-verbaux, ses projets, ses mémoires, ses publications, entre autres, sont effectivement des sources très riches en matière. Donc, je vais vous présenter un peu l'introduction. Et ma problématique, puis je vais vous faire un survol de l'exposition virtuelle en même temps. Donc, fondée en 1947, la CELJ est le premier organisme à rallier les intervenants du monde éducatif de langue française de l'ensemble du Canada. Sa création, comme Michel l'a mentionné plus tôt, se fait dans le contexte de l'accélération de la croissance des systèmes éducatifs après 1945, alors que l'accès à l'enseignement secondaire et postsecondaire se démocratise. Son originalité à ce moment va tenir au fait qu'elle réunit des acteurs communautaires œuvrant en milieu scolaire dans toutes les provinces canadiennes, ainsi que les représentants de tous les ministères d'éducation provinciaux et territoriaux. Tout en respectant et en valorisant les intérêts particuliers de chaque communauté, la CELJ va fonder son action sur l'esprit de solidarité qu'elle va chercher à cultiver parmi ses membres. Elle tâche de s'affirmer comme l'autorité en matière d'éducation de langue française au pays et sur la scène internationale. Donc, dès sa fondation et jusqu'aux années 1960, elle va encourager les communautés francophones à concevoir des projets éducatifs distincts, tout en s'investissant dans un grand projet collectif. Son implication dans le débat sur la dualité canadienne témoigne de son engagement concret dans la réalisation par l'éducation de l'égalité des deux peuples fondateurs. Elle va inciter les gouvernements provinciaux à agir en ce sens. Les bouleversements sociaux et politiques entourant la Révolution tranquille et le débat sur la place du Québec au sein du Canada vont soulever des tensions entre les francophones du Québec et ceux des autres provinces, comme je l'ai mentionné plus tôt, mais les liens vont se maintenir néanmoins à l'intérieur de l'association. Pendant les années 1980, la CELJ va s'engager dans une relance en formant un réseau d'individus et d'organismes dynamiques au service du développement de la culture et de l'éducation française au Canada. Elle entend mieux tenir compte des particularités propres à chaque région. dans ses efforts pour faire rayonner la culture francophone au pays. Au tournant des années 1990, la CIEL va offrir à ses membres une vision collective d'une francophonie en renouvellement, marquée par le pluralisme culturel et identitaire qui caractérise la société canadienne. Afin de poursuivre la valorisation et la préservation de la culture d'expression française, elle initie de nombreux projets, multipliant ainsi les occasions de promotion du fait français au pays. Depuis 2003, la CIEL dirige son action vers l'amélioration de la qualité du système éducatif de langue française et elle s'engage davantage dans le domaine de la construction identitaire. Ses initiatives, ses activités de réflexion et de concertation vont stimuler l'émergence, puis le développement d'une identité culturelle francophone dynamique et un sentiment d'appartenance à la francophonie canadienne, à la fois chez les élèves, les enseignants, les parents et les directions d'école. Donc, pour marquer cet événement, donc son 75e anniversaire, cette exposition va mettre en valeur l'importance de sa contribution au développement d'une conception de l'éducation française comme outil de construction identitaire, d'émancipation sociale et de progrès culturel. Donc, voici la page de l'expo, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc, comme vous allez le voir, l'exposition va aborder une dizaine d'initiatives que vous pourrez explorer. Donc, ici, voici le menu. Oh, un petit peu trop loin. Donc, en partant de sa fondation en 1947 comme une tribune unique et un point de ralliement des éducateurs franco-catholiques. Elle va se transformer avec les débats intellectuels qui ont cours dans les milieux catholiques canadiens-français, ainsi qu'en raison du courant mondial de sécularisation au suite des travaux du Concile Vatican II. Elle va se déconfessionnaliser en 1965, donc elle admet à partir de ce moment des membres qui ne professent pas la religion catholique. Et en 1968, elle va prendre officiellement le nom d'Association canadienne d'éducation de langue française. Avant, c'était l'Association canadienne des éducateurs. Donc, pour pouvoir refléter l'étendue de ses membres, donc ce ne sont pas seulement que les éducateurs, mais il y a également des administrateurs scolaires qui se retrouvent à ses rangs. Donc, pour cette catégorie, dans le fond, ce que j'ai choisi d'exposer, c'est l'être patente, qui l'incorpore en corporation. Donc, vous pourrez trouver des photos de son premier congrès en 1948, ainsi que le compte-rendu de son premier congrès. Donc, qui montre évidemment ses premières tendances idéologiques. Donc, le thème était « Mission de l'éducateur canadien français catholique ». Donc, vous pourrez aller lire les documents, les citations. Donc, l'exposition va mettre également en évidence deux composantes qui ont caractérisé au fil des décennies l'évolution de ses positions et de ses activités. Donc, ses congrès pan-canadiens annuels et ses publications. Donc, les congrès successifs de la CIELF ont rassemblé au fil des années les forces vives de la francophonie dans le domaine de l'éducation française. Les intervenants s'y rejoignent dans une démarche de réflexion et de concertation et les thématiques qui sont abordées vont illustrer l'évolution des tendances de la CIELF depuis 1948. Ces publications, quant à elles, comme vous pouvez voir ici, quant à elles, lui ont permis de diffuser le savoir et de partager les idéaux qui caractérisent les différentes communautés francophones canadiennes. Elle commence à publier son bulletin dès 1955. En 1982, ce bulletin va prendre le nom officiel de « Au fil des jours », avant d'être remplacé par son bulletin électronique en 2005, « La CIELF en action ». Elle va lancer également la revue de la CIELF à son congrès annuel de 1970. Son premier numéro va paraître l'année d'ensuite, en décembre 1971. Donc, sa publication de sa revue est faite dans le but de combler ce vide-là au chapitre des publications en milieu éducatif francophone. Donc, il y avait une revue à la Canadian Education Association. Donc, on voulait avoir en contrepartie, on voulait avoir une revue française. Donc, en conformité avec sa mission, la réflexion collective amorcée dans la revue a l'objectif d'aider la francophonie canadienne à clarifier les situations complexes auxquelles elle est confrontée dans le domaine de la culture et de l'éducation. Les actes de ces congrès annuels y sont fréquemment publiés, et ce jusqu'aux années 90. Et en 1989, la revue va changer de nom pour devenir officiellement Éducation et francophonie comme on la connaît aujourd'hui. Donc, en termes de lieu dynamique de concertation, la CIELF a entrepris historiquement de nombreuses initiatives, comme j'en ai fait mention tout au long de la table ronde, donc pour développer des liens de solidarité entre les francophonies canadiennes et aussi pour améliorer l'accès et la qualité du système éducatif de langue française au Canada. Donc, c'est différentes initiatives, tels ces salons du livre, comme quelqu'un l'a mentionné, je pense que c'est Marcel, son programme de sensibilisation à la lecture qui avait le but de, comment je pourrais dire, de faire aimer la lecture canadienne-française à l'époque, et ce jusqu'au début des années 1990, vont justement solidifier les liens culturels de la francophonie canadienne. Ces stages de perfectionnement, les échanges interprovinciaux d'élèves, la Semaine nationale de la francophonie, la table nationale de concertation, regroupant les responsables des programmes français, et ces symposiums ne sont que quelques exemples d'initiatives qui s'inscrivent dans sa mission et qui sont traitées à l'intérieur de l'exposition. Donc, je vous montre très brièvement un peu ce que je mets en évidence. Vous pourrez aller lire. Mais ce ne sont que quelques initiatives que j'ai fait le choix d'exposer pour pouvoir montrer un peu ce lien, la mission de la SELF tout au long des années. Excusez. Donc, les sources choisies visent justement à démontrer ces motivations pour la mise en place de telles initiatives, ainsi que le rôle spécifique que la SELF va attribuer à l'éducation dans la construction de la francophonie canadienne comme société globale. Les stages en enseignement dans les communautés et la production d'outils pédagogiques, culturels et artistiques sont quelques-unes de ces initiatives qui vont s'insérer à l'intérieur de son nouveau mandat qu'elle va adopter au tournant des années 2000. Donc, est-ce que je suis rendue? Bon. Donc, la SELF va également jouer un rôle très important au niveau international. Donc, je vais juste aller un petit peu plus vite pour pouvoir vous montrer l'entièreté de l'exposition très brièvement. Donc, pour ceux qui se demandaient tantôt pour les salons du livre, il y a la liste des salons du livre à l'écran de 1967 jusqu'à 1989, si je ne me trompe pas. Donc, vous pourrez trouver celui que vous avez fréquenté à l'époque ou si ça vous intéresse de voir un peu le montant de salons, le nombre de salons du livre qu'il y a eu en une période quand même assez une dizaine d'années. C'est très impressionnant. Quelques photos. Les statistiques. On parlait de statistiques tantôt pour les salons du livre. On peut pas, il n'y a pas de statistiques pour savoir la participation, mais pour son programme de sensibilisation à la lecture qui a été très important auprès des élèves, on peut voir un peu avant sa terminaison en 92, on peut voir un peu les statistiques de participation par province. Les échanges. Donc, pour le rayonnement de la francophonie canadienne à l'échelle mondiale, la SELF va également jouer un rôle très important. Donc, son engagement envers le développement de l'enseignement en langue française et de l'enseignement catholique l'a conduit à assister à diverses réunions internationales d'éducateurs au fil des années. Par exemple, et ce dès 1958 et pour plus de 50 ans, la SELF a participé à la Commission canadienne pour l'UNESCO, ce qui lui a permis de témoigner de l'existence au pays d'une francophonie dynamique. Donc, même s'il s'agit que d'une petite partie de son histoire que je vous présente ici ce soir et qu'il y aurait mille et une choses à dire, je crois que ça démontre bien de la manière que la SELF modifie ses moyens d'action au fil des décennies pour jouer le rôle d'interlocuteur important auprès des organismes à la fois provinciaux, nationaux et auprès des agences internationales, et ce, au nom de l'ensemble des organismes s'intéressant à l'éducation et à la culture française au Canada. Donc, comme vous pourrez le voir, et ça, je pense, Diane, tu avais mentionné tantôt que tu avais participé au stage. Donc, voici un exemple du stage de perfectionnement auquel tu as animé. Donc,
écoute, ça fait mal, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait.
C'était sur identité et rapport à la langue. Donc, comme je vous dis, j'y vais très, très rapidement. Vous pourrez prendre votre temps et aller regarder les documents. Donc, la table nationale, un peu un exemple de les programmes dans les différentes provinces, donc au Yukon et en Alberta, ce qu'on voulait en termes de programmes français, et ça, c'est dans les années, en 1993. Donc, ce qu'on voulait, c'était quoi les besoins en termes de programmation française et comment est-ce que la table a pu combler les vides qu'il y avait. Donc, la Semaine nationale de la francophonie, qui a été très, 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 très populaire. Calendrier des activités, un coup d'œil un peu sur la francophonie canadienne. Stage en enseignement. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter l'exposition virtuelle, à lire les textes, les citations et à apprécier les documents qui y sont exposés. Donc, c'est 75 ans. C'est quand même de 47 à 2012. Donc, c'est quand même une période remarquable pour une association. C'est une histoire, c'est remarquable. Oui, Lucie?
L'exposition devrait être disponible en ligne présentement, mais quand je vais sur le site, ça dit encore à venir. On va regarder ça demain pour s'assurer que vous puissiez y accéder. Mais oui. J'ai mis le lien dans la boîte de discussion. Donc, c'est le site des expositions du CACCF. Vous le voyez aussi sur l'écran de Danica, exposition CACCF.ca. Oui. Toi, tu as accès, probablement que tu as accès au lien pour la
crise. Oui, c'est ça,
Donc, on va s'assurer que c'est vraiment disponible à tous dès demain.
Parfait. Donc, je vous remercie énormément pour votre écoute ce soir et pour votre participation à la table ronde et au lancement virtuel. Donc, ça a été un travail, tout un processus, mais je suis vraiment fière du résultat et je suis vraiment fière aussi d'avoir pu me lancer dans le dépouillement de ce fonds qui est très riche et qui encore, il y a mille et un dossier encore à explorer. Donc, je vous remercie.
Bravo, Danica, c'est très intéressant. Merci beaucoup et merci à vous tous pour vos questions et encore une fois, merci aux participants de la table ronde.
Et merci à toi, Nathalie, d'avoir animé cette table ronde. Donc, je remercie aussi nos participants. Tous les gens qui ont assisté, vous étiez nombreux à être là avec nous aujourd'hui et je vous invite à venir voir l'exposition sur le campus si vous êtes là et sinon à la consulter en ligne puisqu'elle est aussi disponible sous une forme virtuelle. Donc, bonne soirée tout le monde et j'espère vous voir nombreux à notre prochain événement de la semaine prochaine qui est une rencontre à livre ouvert autour du dernier numéro de la revue. Je pense que c'est Men's. Je vais vérifier ça, là, je vous dis ça immédiatement. De Francophonie d'Amérique, le numéro 52 de Francophonie d'Amérique, c'est une rencontre avec Monica Heller. Il va parler de ce numéro sur le Canadien errant. Donc, merci à vous tous.
Merci Lucie, au revoir.